là pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Grégor. Chaque semaine, sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, la locale à Saint-Girons et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Grégor, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. On va commencer par vous dire qu'on fait un cinquième Tour de France ce soir. On va commencer par Reims, puisqu'il s'est passé quelque chose sur Reims samedi. Samedi matin, il y avait à 4h, 5h moins le quart, un blocage de la Citura qui était organisé donc d'une manière tout à fait démocratique, comme on dit si bien, dans une assemblée générale de la veille, où effectivement il y a 30 à 40 personnes qui se sont retrouvées. On va en parler. Il y a une personne qui est arrêtée et la manifestation qui a suivi après, où on n'était que 500, 600, 700 peut-être, a été dynamique en ce sens que eh bien, les Gilets jaunes ont fait que ça soit dynamique. Ils ont tout fait pour que justement on aille chercher le copain au commissariat. On est allé jusqu'au commissariat. C'était pas du tout prévu. Les flics étaient un peu débordés. Et voilà. Alors, je crois que on va avoir quelqu'un au téléphone pour nous dire un petit peu ce qui s'est passé.
Alors, Samuel, est-ce que tu nous entends?
Alors, j'entends de loin. J'entends de loin.
C'est normal, c'est les Grégor, donc quand ça marche pas, c'est que ça veut dire c'est que ça marche. Je pense que ça va mieux. Alors, est-ce que tu peux nous raconter d'abord qu'est-ce qui s'est passé samedi matin au dépôt de tramway de la Citura et puis comment cette décision de bloquer avait été prise?
Eh ben, c'était suite à l'assemblée générale de la manifestation de jeudi dernier. Suite à une proposition d'un des manifestants, il a été décidé collectivement d'aller bloquer le dépôt de la Citura samedi matin, donc à l'ouverture, c'est-à-dire à la prise des bus par les chauffeurs. Donc voilà comment ça s'est fait. Ensuite, se sont retrouvés des membres de la manifestation, des gilets jaunes, des syndicalistes et puis d'autres sympathisants de la cause pour aller bloquer. Donc on a bloqué à la fois l'entrée principale et l'arrière. C'est-à-dire que les bus ils peuvent sortir à la fois à l'avant et à l'arrière. Donc on était assez nombreux pour faire les deux choses. Voilà.
Alors on parle de dépôt de bus d'autant plus qu'on avait à de nombreuses reprises lors des assemblées générales de manifestation et lors des assemblées générales de la ville soulevé la question de la participation des travailleurs de la Citura à la grève et on interrogeait le fait que même pendant les journées de mobilisation il y avait quand même pas mal de circulation. Et il faut dire aussi, je précise à l'intention des auditeurs, que il y avait eu des discussions avec des syndicalistes de la Citura, syndicalistes CGT, qui, on va dire, voyaient d'un bon œil le fait que les partisans et les participants du mouvement social rémois bloquent ce dépôt de bus. D'ailleurs, comment ça a été reçu de la part des travailleurs de la Citura?
Pour le peu qu'on a rencontré, c'était assez positif. Après, rapidement, la RH et la direction est venue à notre rencontre et a fait en sorte que les travailleurs de la Citurane n'entrent pas trop en contact avec nous. Donc ils ont mis leur chauffeur dans les bus à attendre à la queue leu-leu. Comme on était nombreux, mais pas assez nombreux pour tenir un blocage total, il avait été décidé de laisser sortir les bus tous les 15 minutes. Donc un bus tous les 15 minutes, donc voilà, on a pas trop de lien avec les travailleurs, enfin avec les chauffeurs pour le coup, mais globalement le peu qu'on avait vu, c'était un soutien à notre action et un soutien à la manifestation, aux manifestations en général.
Et puis tu l'as précisé, c'est important, c'est une décision qui a été prise et qui a été validée par l'Assemblée Générale à l'issue de la manifestation. Donc on va dire quelque chose d'assez majoritaire, c'est pas l'acte de radicaux ou d'excités ou de gens illuminés, quoi. C'est une action du mouvement, quoi.
Voilà, exactement. C'est une décision qui a été prise en collectif suite à une assemblée générale qui avait lieu dans les lieux dédiés aux assemblées générales, à la maison des syndicats.
Alors ensuite
Ensuite, ben voilà, rapidement arrivée la police. Donc moi j'étais positionné sur l'arrière, donc à l'arrière on n'avait pas trop de contact ni avec les chauffeurs ni avec la police. Ils étaient restés que à l'avant. Mais les camarades qui étaient devant nous ont rapidement alerté que ça commençait à se tendre, non pas du côté des manifestants, mais de la police, puisque rapidement ils se sont équipés. Hein, donc on s'attendait à ce que voilà, on soit dégagé, mais pas forcément de cette manière-là, puisque à Reims on n'a pas forcément l'habitude d'être d'être trop bousculé ni d'être trop bousculant non plus. Voilà.
Et qu'est-ce que tu entends par cette manière,
hein? Ben, c'est-à-dire que voilà, donc 5h du matin, à 7h du matin, on a reçu sans sommation des galets de lacrymogènes qui ont fait qu'on a été dispersés très rapidement. Surtout qu'on a eu une deuxième salve, histoire qu'on n'ait pas envie de revenir. Et puis ça leur a permis d'interpeller un de nos camarades qui se retrouvait là en première ligne, non pas parce qu'il voulait en découdre, mais parce qu'il a mis plus de temps à bouger que les autres pour, de ce que j'en sais, un chef d'inculpation d'entrave à la circulation.
Tu parles de galets, ça veut dire qu'il y a eu utilisation d'un lance-grenade ?
Ouais, voilà. Lance-grenade, deux fois sans sommation sur les gens.
Ouais. Alors, d'après ce qu'on sait, il est passé en comparution immédiate. Malheureusement, on fait tout pour que les gens arrêtent de passer en comparution immédiate, demandent justement que ça soit reporté pour qu'ils aient au moins un avocat motivé pour les défendre. Il est donc passé aujourd'hui. Il a eu 2 mois de prison avec sursis. Il a eu 3 ans de mise à l'épreuve. Il a eu un stage qui va payer, un stage de citoyenneté de 200 euros. Il va payer 200 euros et il doit surtout rembourser les pertes de la Citura. Voilà.
D'accord.
Alors donc
ouais,
je pense.
C'est très lourd. Très lourd.
Très,
très
lourd. Rappelons que c'est un délit pour ce que l'on sait qui est d'entrave à la circulation. Hein.
Oui, c'est entrave à la circulation.
Voilà.
Alors moi je pense qu'il va falloir quand même qu'au niveau des assemblées générales rémoises que ça soit assumé collectivement, quoi, puisque ça a été une décision prise.
Ouais, bah, effectivement, si c'est confirmé là, ce que vous m'annoncez, parce que moi j'en savais rien. Effectivement, il va falloir dès demain en parler et dire déjà d'assumer collectivement à la fois l'amende, mais aussi rappeler, même si la personne qui s'est fait interpeller, a priori, elle avait déjà été au courant de ce genre de choses, de bien s'entourer et de refuser la comparution immédiate.
Oui, et puis maintenant, faire appel, puisque maintenant c'est trop tard, il est passé, il faut qu'elle fasse appel, parce qu'on a connu en plus des gens qui étaient condamnés en comparution immédiate, et qui après ne faisait même pas appel.
Ne faisait pas appel, oui.
Et qu'est-ce que ça a donné au niveau de l'impact et de l'ambiance? Vous êtes reparti de là, vous avez pu rediscuter de ce qui s'était passé dans la manifestation après
Après, une fois que ça s'est dispersé, on est allé boire un café en attendant la manifestation du matin.
Ouais, récupérer quoi. Ouais.
Voilà, récupérer pour certains, boire un café pour d'autres, pour en discuter. On n'a pas été plus choqué que ça non plus. Hein. L'ensemble des manifestants savent aussi à quoi ils sont exposés, notamment avec le durcissement
De la répression, oui, des flics, ouais.
Voilà, de la répression, des pratiques policières. Donc on n'a pas été surpris, ça a pas, enfin en tous les cas, j'en ai pas rediscuté spécifiquement, mais ça m'a pas fait baisser les bras des gens qui étaient là. Ce qui était bien, hein, pour le coup, c'était que la manifestation du matin ait fait un crochet par le commissariat pour aller demander des comptes et pour aller demander la libération, même si on avait des doutes sur le fait qu'on réussisse à l'avoir, c'est de voir 500 à 700 personnes devant le commissariat et demander la libération du camarade, c'était plutôt chouette.
Oui, c'est ce que disait Denis, ça au contraire renforcé, exprimer la solidarité comme ça, c'est bien. Et d'ailleurs, on a vu, comment dire ça de manière polie, la conception de la solidarité qu'on pouvait avoir et qui était à géométrie variable.
Voilà, voilà. À géométrie variable. Certains d'entre nous ne s'en étonnent pas, même si on le déplore. D'autres l'ont peut-être goûté de façon un peu plus amère, mais il y en a qui vont payer, les pots cassés, non pas de façon virulente, mais les stratégies syndicales ou politiques, hein, pour certains, vont leur jouer des tours, je pense.
Oui, de toute façon, il n'est pas question de faire de séparation entre les bons et les mauvais manifestants, les voilà, bons exactement. Et les mauvais acteurs du mouvement social, des mouvements sociaux en général. C'est pas la première fois à Reims, et même d'une manière générale partout en France, qu'il y a des gens. On n'est pas des petits soldats, hein, c'est-à-dire que si on propose des choses et qu'on les fait, on n'est pas là pour servir de bétail ou de force de mobilisation aux syndicalistes et aux meneurs ou aux leaders des mouvements sociaux, quoi. C'est pas des convocations, quoi. Chacun doit assumer, évidemment, mais on l'a dit, on le répète, c'est un moment du mouvement, quoi. Donc c'est collectivement qu'il faut assumer le truc, quoi.
En tous les cas, hein, pour changer d'optique, je trouve ça, enfin, ce qui se passe sur Reims, c'est assez chouette, hein, pour connaître un peu les mouvements de ces dernières décennies. J'ai pas vu ça tous les jours.
Alors, je suis d'accord avec toi, il faut voir ce qui est...
La manif était très belle à 10h, ouais, hein, 10h30, très belle.
Il faut absolument se poser et voir les points positifs. Je suis partisan de cette optique. Ce que je regrette quand même, c'est que le processus est extrêmement lent et coûteux. C'est-à-dire que
coûteux en énergie, il est coûteux même pour les personnes qui sont
il faut vraiment recommencer comme si on recommençait à zéro, non pas à chaque fois parce qu'on avance au fur et à mesure, mais la dépense d'énergie et de comment dire de bonne volonté et de bienveillance pour pouvoir justement lier construire une force de proposition qui soit une force de proposition d'action, une force de proposition crédible et autonome, une espèce d'alternative. Elle se fait, mais elle se fait très très lentement. Enfin bon, on verra justement raison voilà. De plus pour pouvoir assurer du côté de la solidarité, mais ça on en reparlera plus tôt. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je vois que Denis, t'as une question, non?
Non, j'ai pas de question justement, non.
Ben de toute façon, on va se renseigner dès demain pour voir comment ça réagit du côté de nos amis syndicalistes, hein, n'est-ce pas?
Du coup, ok. Ben, on se voit demain alors.
Ça marche très bien. Salut Samuel, bonne soirée.
Salut.
Merci.
Ouais, alors je crois qu'avant de passer la musique, il nous reste pas grand-chose pour nous parler de la situation actuelle. La situation actuelle, apparemment, effectivement, beaucoup de cheminots reprennent le travail. Faut s'avouer le truc. Hein. Ils sont beaucoup moins. D'ailleurs, il y a plus de trains qui circulent. Il n'y a pas besoin de chiffres pour le prouver. Par contre, la RATP, ça tient quand même pas mal. Peut-être qu'il va y avoir les ports qui vont se mettre en grève. Peut-être que l'éducation nationale va enfin se remobiliser. On ne sait pas. finalement, cette mardi, mercredi, jeudi, ça va être encore déterminant au niveau de ce mouvement. Au niveau du pouvoir, ils font tout pour que ça pourrisse la situation, se pourrisse. Ils nous ont fait le coup de l'âge pivot, là, mais c'était complètement téléphoné. On le savait depuis longtemps que ça allait se passer comme ça. On savait tout de suite que la CFDT, le chef de la CFDT allait dire qu'il était content, qu'ils avaient gagné. Bon, c'est un classique malheureusement triste, quoi. Mais bon, ils ont rien gagné du tout, les pauvres, puisque de toute façon, cet âge pivot sera toujours dans la loi. Et qu'en plus, au niveau du financement, ben, faut pas que ça soit les cotisations patronales qui financent, puisque ça ferait du mal à notre économie, ça ferait du mal à l'emploi. Il faut pas non plus baisser les retraites. Alors, on sait pas trop, comme dit le mec, un cadre qui a dit la CGC, le cadre a dit, c'est comme quand vous faites une omelette que vous mettez pas deux, quoi. C'est-à-dire que ça risque pas de prendre, quoi. C'est évident, quoi. Bon, voilà. On en est là aujourd'hui. On aura peut-être certainement l'occasion d'y revenir.
Alors oui, pour préciser ce que tu dis, parce que quand même c'est hyper alambiqué, hein, on le voit hein, notamment sur la stratégie du gouvernement. Donc je précise ce que tu disais sur le retrait. Donc c'est un retrait provisoire de l'âge pivot. Alors l'âge pivot, qu'est-ce que c'est? C'est un âge sur lequel il serait impossible de faire valoir ses droits à la retraite sans la pénalisation d'une décote même si on possède l'ensemble des annuités, l'ensemble des trimestres hein, ou des points en l'occurrence nécessaires à l'obtention de cette pension de retraite. Donc cet âge pivot il avait été fixé dans la loi pour le moment à 64 ans. Ce qui signifie que toute prise tout déclenchement de ses droits à retraite en dessous de cet âge pivot, de cet âge d'équilibre, on voit que le vocabulaire est quand même particulièrement bien ciselé, entraînait donc une décote de 5%, en tous les cas c'était ce qui était proposé, on parlait même de 10%, pour toute la durée du pensionnement, quoi. C'est-à-dire que, on va dire jusqu'à la fin de sa vie, quoi. Voilà. Donc bon, ce retrait, il est provisoire. En effet, samedi, le 11 janvier, le Premier ministre Philippe, par un courrier, a fait un geste. Hein, on voit la commutation, mais il propose donc de suspendre la mise dans la loi de cet âge pivot sous la condition que les organisations syndicales trouvent un accord avec le patronat sur le financement d'ici fin 2020, donc avant la fin de l'année, sans quoi le gouvernement prendra par ordonnance, donc sans débat au Parlement, les mesures nécessaires pour, lui, ce qu'il dit, atteindre l'équilibre d'ici 2027. Et évidemment, il donne des conditions à cet accord sur le financement. Il est hors de question que le niveau des pensions soit touché, à la hausse comme à la baisse, ça, on peut dire que c'est pas vrai. Et de même, pour ce qu'il appelle le coût du travail, c'est-à-dire, comme tu l'as dit, Denis, les cotisations, quoi. C'est très éclairant sur la stratégie du gouvernement. On aura peut-être l'occasion d'y revenir au cours de cette émission, parce que ce scénario, en tous les cas, ce storytelling qui a été écrit et qui est développé depuis quelques mois, quelques semaines, trouve là vraiment une illustration assez grossière, dans le sens où, tu l'as dit, c'était téléphoné, c'est écrit, donc on voit maintenant la CFDT peut rentrer à la maison. Mais bon, on en reparlera peut-être.
Ils ont rentré à la maison, il faudrait déjà qu'ils soient sortis. Ouais. Très bien. Bon, alors, on a, je crois, les Strasbourg sur... Ah non, une petite pause musicale. Toute petite. Vraiment toute petite.
Moi, volontiers. Volontiers.
Bon, on va continuer notre Tour de France et on va passer par Strasbourg, le Grand Est dont on fait partie d'ailleurs, nous à Reims. Est-ce que vous m'entendez sur Strasbourg?
Alors, oui, Strasbourg vous entend, oui.
Alors, bon, on ne va pas parler de ce qui s'est passé avant les vacances, avant les fêtes, surtout parler de la semaine dernière. À noter tout de même par rapport, si vous voulez savoir ce qui s'est passé sur Strasbourg, le groupe OCL de Strasbourg a écrit un très bon article qui est dans le dernier numéro de Con Alternatif, le numéro 296, qui nous dit un petit peu ce qui s'est passé pendant le 5 ou au 20 décembre, 21 décembre exactement. Alors depuis, alors qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous un peu.
Alors du coup, on a repris les manifestations donc aux appels syndicaux. Donc il faut savoir que c'est l'intersyndicale la plus offensive à Strasbourg, bah, c'est celle qui regroupe la CGT, Solidaire, Force Ouvrière et la CNT. Donc généralement, tous les appels passent par ces centrales syndicales. Ensuite, il y a des AG intersecteurs qui regroupent les secteurs en lutte. Il y a beaucoup de cheminots qui participent à ces AG-là. Des personnes de l'éducation nationale. À Strasbourg, il y a quelques lycées et quelques collèges qui sont mobilisés aussi, mais c'est quand même eux et les Gilets jaunes en fait qui portent le plus le mouvement pour l'heure.
D'accord.
La grève chez nous en fait, elle se voit surtout au niveau des cheminots. Quoi. C'est quand même les cheminots, les roulants, les conducteurs, enfin qui bloquent en fait, qui sont vraiment porteurs du mouvement. Après, il y a des choses qui se rajoutent. Effectivement, chez nous, il y a les avocats qui viennent de se mettre en grève là, il y a une semaine, c'est ça?
Oui.
Donc c'est assez nouveau, quoi. Il y a vraiment un gros truc au niveau des avocats avec donc des reports d'audience. Donc c'est une première, quoi. C'est une première. C'était jamais arrivé, enfin, à mes souvenirs aussi, de manière aussi radicale à Strasbourg. Donc il y a les avocats, il y a
l'énergie aussi. Il y a les dépôts pétroliers.
Oui, il y a les dépôts pétroliers aussi. Mais ça reste globalement le socle, c'est quand même les cheminots, qui portent le truc. Quoi. Donc, parce que nous, globalement, à Strasbourg, au niveau des transports en commun, au niveau de la CTS, parce qu'il y a aussi ça, il y a les transports en commun, c'est surtout l'UNSA en fait qui est majoritaire. Et bon, eux, c'est quand même, enfin, c'est pas des foudres de guerre, quoi. Ils sont pas localement, ils sont pas super mobilisés. Ils sont super réformistes. Ils sont vraiment, enfin, c'est relativement pro-direction quand même. Enfin, et ils ont fait quelques blocages. Il y a eu à un moment donné une grève pendant les vacances. Il y a eu quelque chose pendant les vacances, mais c'était en service minimum, quoi. Les trams circulaient quand même en partie. Il y avait quelques lignes qui étaient bloquées. Et après les vacances, je crois que j'ai rien vu du tout au niveau de la CTS.
J'apporte une précision sur la composition du syndicalisme, notamment cheminot alsacien. Il y a une très très grande historique de cette composition, puisque dans l'Alsace et notamment sur Strasbourg. C'est important pour nous parce que c'est les TGV qui font la ligne Paris-Strasbourg, donc qui passent par Reims. Il y avait une grande importance de l'AFJAC, Fédération Autonome des Agents de Conduite, extrêmement corporatiste et qui a rejoint ensuite une partie de la CFDT, une autre partie plus petite, UNSA, et qui sont un type de syndicalisme qui sont capables de se mobiliser, mais très très corpo, donc ça marche bien. Quelle est l'ambiance dans la ville du coup, et est-ce que il y a les prises de décision, le mouvement, est-ce qu'il y a une organisation qui passe par des assemblées générales, est-ce qu'il y a des rencontres, est-ce que ça débat, etc.
Alors il y a des AG, il y a parfois des AG de secteur, notamment au niveau de l'éducation, il y a des AG aussi au niveau des cheminots, et après pour l'organisation des AG d'une manière plus globale, ça passe par une AG intersecteur.
Après les journées de mobilisation en général.
Après les journées de mobilisation, et bon, le problème c'est qu'il y a moins de mandats d'étudiants, il y avait aussi un petit mouvement étudiant aussi qui s'était constitué, mais là ça s'est retombé.
Parce que là en fait les étudiants sont, en tout cas localement, sont en vacances jusqu'au 20 janvier. Donc il y a beaucoup moins de personnes sur la fac. Ils sont très peu mobilisés. De toute façon, le mouvement étudiant, globalement à la fac reste relativement très faible. Il y a un noyau de militants qui porte les choses, quoi. Il y a surtout c'est surtout sud étudiants avec un peu de gens de la CGT, mais ils sont c'est un petit noyau, et les étudiants ils ont au jour d'aujourd'hui ils viennent peut-être à titre individuel dans les manifs, les manifs aussi le samedi avec les gilets jaunes. Mais globalement, non, sur la fac, il n'y a pas grand chose. Mmh. Au jour d'aujourd'hui, là, ils n'ont pas repris, donc il n'y a pas grand chose à ce niveau-là.
Et puis après aussi par rapport aux mobilisations le samedi, c'est un peu plus large, un peu plus élargi. Bon, il y a plus de gilets jaunes aussi le samedi. Il y a d'autres secteurs aussi, plus du secteur privé aussi, qui là se mobilisent pour ces rassemblements, parce que en dehors des autres jours de la semaine, ils ne peuvent pas. Et voilà, c'est à peu près les dynamiques qu'on a pour leur au niveau strasbourgeois.
Ouais, en gros, globalement, on a le RAL qui est mobilisé tout le temps, avec différents AG dans différents secteurs, mais il n'y a pas de gros blocage, il n'y a pas eu de gros blocage. Par contre, ce qui est très très bien chez nous, ce que je trouve super chouette, c'est en fait les manifestations, comme dit le copain, c'est les manifestations le samedi, parce que là, en fait, on a un panel de gens beaucoup plus large, beaucoup plus de secteurs mobilisés, il y a plus de gens qui se parlent, il y a aussi les gilets jaunes, qui, malgré un an, il y a des noyaux durs qui se sont constitués, de gens qui continuent à se mobiliser, que ce soit un peu sur les ronds-points, qui viennent aussi à Strasbourg, qui des fois sont même en opposition un petit peu avec... d'autres gilets jaunes, on va dire, qui appartiennent plus à des chapelles politiques militantes, et ces gilets jaunes, eux, ils veulent faire des choses beaucoup plus radicales, ils veulent bloquer, par exemple, lors de la dernière journée de mobilisation, l'AG intersecteur, il y a eu une décision qui a été, portée par les gilets jaunes, qui a été mise en action par les gilets jaunes, c'était le blocage d'un des dépôts CTS. Et tout de suite, ça a créé des perturbations dans la ville, quoi. C'est-à-dire que la direction, la préfecture, personne, ils étaient surpris. C'est-à-dire, ils ont été complètement pris de court, et ça a désorganisé effectivement l'ensemble du trafic CTS. Ils ont dû ramener des bus. Et je dirais que c'était assez drôle, parce que ça faisait longtemps qu'à Strasbourg, on n'avait pas vu une forme de pétillement et de combativité ouvrière, en tout cas en dehors des structures syndicales traditionnelles et des manifs traditionnels syndicales. Moi, je trouve ça c'est un truc qui est vraiment super positif, quoi. C'est ce reste de gilets jaunes qui est offensif, qui porte des choses, qui porte même des critiques des fois. C'est assez marrant parce qu'ils portent, ils sont pas des fois hyper méga politisés, mais ils portent vraiment des certaines critiques anti-organisation, mais pas forcément primaires, hein, parce qu'ils sont quand même dans l'optique du mouvement, et moi je trouve ça assez chouette.
Oui, prenons un exemple, par exemple, à Reims, il y a eu un gilet jaune qui a eu une réflexion absolument incroyable pour quelqu'un que je ne connaissais pas du tout et qui débarque certainement en politique, enfin en politique au niveau militantisme, et qui a dit que parmi les gens qui manifestaient au niveau des syndicalistes, il y avait certainement des gens qui étaient en délégation syndicale. Voilà, ça m'a fait rire, parce que bon, effectivement, c'est ce qu'on dit depuis longtemps. Quand il y a des manifestations et des grèves, etc., il y a certains militants syndicaux qui y viennent, mais ils sont payés en fait, hein, ils sont en délégation.
Ah, et ben voilà, c'est... ça a coupé. Bon, peut-être qu'on va réussir à revoir les camarades strasbourgeois. Pour qui nous narre la suite de leur expérience dans la capitale de l'Europe et de l'Est. Finalement, on retrouve un peu les mêmes dynamiques qu'un peu partout, hein, c'est-à-dire des secteurs très minoritaires qui sont en grève, qui mènent le combat et qui servent de locomotive pour la suite. Une difficulté à procéder à une auto-organisation et à impulser des dynamiques et des calendriers qui soient différents de celles des intersyndicales locales et nationales, et évidemment du monde dans les rues avec une présence de gilets jaunes. Vous êtes revenu ?
Oui.
Oh là là, il y a un problème là au niveau du son. Il y a vraiment un problème au niveau du son, je sais pas.
Alors, oui, est-ce que vous nous entendez? Oui.
Oui.
Alors nous, par contre, on vous entend très très mal, hein, c'est-à-dire que c'est très haché et ça coupe. On va essayer de d'améliorer ça. Donc, tu nous décrivais comment ça se passait et je te relance sur la question. Il n'y a pas d'autres rendez-vous que des assemblées générales après les manifestations. Il n'y a pas d'autres calendriers, ni prise de décision, ni modalités d'action que celles décidées par l'intersyndicale.
Non, bah c'est foutu, hein, ça c'est foutu. On va se quitter là parce qu'il se pose un problème technique, on ne nous entend absolument pas, c'est complètement haché. Bon, c'est un problème de téléphone, apparemment.
Bon, c'est pas grave.
On vous remercie bien. Désolé que ça n'ait pas vraiment fonctionné jusqu'au bout.
Bon, on va pouvoir peut-être passer un petit peu de temps, quelques minutes avant d'avoir notre camarade de Bretagne au téléphone. Je voulais parler deux secondes de quand même des discours et de la réforme et de la stratégie gouvernementale. Alors, c'est une stratégie qui fonctionne, hein. Il ne s'agit pas de se mettre à la place de la tête des bourgeois, et puis on ne peut pas de toute façon être dans la tête du monstre et penser à leur place. Par contre, ce qu'on sait, c'est que à l'intérieur de ces conseillers, de ces think tanks, de ces artisans du serviteur de la bourgeoisie et de l'idéologie qui dispense, il y a évidemment des stratégies qui sont mises en place, qui sont pensés, et notamment l'objectif est de concentrer la discussion, les interrogations et donc nous, nos propres réponses sur des secteurs ou sur des notions qui sont bien évidemment choisies par le pouvoir. Déterminer les termes du débat, c'est d'abord le maîtriser. Alors on l'a dit, il y a effectivement d'abord un calendrier qui a été décidé, puisque et c'est toujours le cas, sauf si j'ai raté quelque chose pendant le week-end, la loi va être débattue et va passer le 24 janvier. Alors que au Parlement, hein, bien sûr, à l'Assemblée nationale.
Je crois pas, hein, je crois que le 24 janvier.
Ah, c'est l'ouverture du débat à l'Assemblée nationale.
Attends,
sur
Camille va nous dire.
Hoche, oui, il remet son voilà. Casque.
C'est ça, c'est au niveau du gouvernement, parce qu'on ne t'entend pas du tout, Camille. Hein. Au niveau du gouvernement, c'est Conseil des ministres. Le texte, le projet sera enfin connu.
Ah oui, c'est écrit. Parce que le projet n'est pas connu.
C'est incroyable, ça. Le projet n'est absolument pas connu. Donc, il passe le 24 et il va passer après au Parlement, tout ça, mais pas avant avril. C'est-à-dire que même, je pense qu'il parle de passer ça avant les vacances.
Alors, ce que je voulais dire par cela, c'était effectivement que c'était les termes de la loi qui allaient être donnés en Conseil des ministres le 24 janvier. Et que donc, pour le moment, en fait, on débat de choses dont on ne sait rien, parce que finalement, il y a quelques notions qui ont été balancées, comme ces tâches d'équilibre et ces tâches pivot, mais sur la réalité, vraiment, combien vaudra le point, qui pourra baisser ou augmenter le point, comment on variera ça, sur quoi le point sera annexé, etc., etc. C'est vraiment le flou le plus total, quoi. D'autre part, on a eu que des notions vagues et là, pour le coup, extrêmement idéologiques qui ont été avancées. Problème de l'universalité, de la justice, de l'équité, pas de l'égalité, hein, bien sûr, c'est ça. Donc des choses qui sont fondamentalement pas contestables, mais qui en fait nous poussent à répondre sur ces points-là et quelque part à développer, et c'est notamment le cas, c'est pas inutile mais ça a ses propres limites, de nous pousser dans une discussion technique et donc quelque part de faire appel déjà d'une part à des experts, parce que la question de l'assurance vieillesse, de la retraite, de la sécurité sociale, c'est quand même extrêmement balèze et technique, hein. Faut quand même être assez au point, notamment sur le régime général, les régimes complémentaires, etc. Et puis tout le monde n'a pas forcément le temps de voir, de prendre le temps et de comprendre ce qui se passe, quoi. Et donc quelque part aussi, se positionner sur l'aspect technique, ça vide le contenu politique qui est prédispose à la réforme des retraites. Alors, j'ai pas pris toutes les notations parce que il y a aussi toujours, et c'est souvent un des grands cas des politicards, c'est de nous mettre toujours dans le sur le terme de l'urgence. Alors, relever quelques trucs, tiens, ça va nous faire un quiz. Si je te dis par exemple, c'est une réforme nécessaire et urgente. Si nous ne faisons rien aujourd'hui, la sécurité sociale sera en cessation de paiement demain et nous en souffrirons tous. Si nous réalisons aujourd'hui la réforme que je vous propose, notre institution sera sauvegardée. Qui a dit ça ?
Macron.
Et non, Alain Juppé en 1995. 5 décembre 1995. Bon, je t'en donne une autre. Cette loi a pour objectif de sauvegarder les retraites par répartition auxquelles tous les Français sont attachés et de renforcer l'équité des différents régimes de retraite. En définitive, la loi est conçue de manière à faire contribuer équitablement les Français à l'effort nécessaire pour garantir dans la durée la viabilité des régimes des retraites. C'est qui ?
Juppé.
Et non, c'est le communiqué des conseils de ministres en mai 2003. En matière de retraite, devons-nous, si nous ne faisons rien, des années de déficit. Sauver notre système de retraite est un impératif. C'est pour notre génération une véritable obligation morale. Cette réforme est construite avec deux exigences, être responsable et être juste. Tu passes ton tour. C'était 2010, Éric Woerth, ministre du Travail. Et enfin, 2019, je suis convaincu que le statu quo n'est pas tenable, que ce projet est indispensable et que les générations futures nous seront reconnaissantes d'avoir eu le courage et la volonté de l'entreprendre. Alors, pour les générations futures, je sais pas, mais pour les générations passées, ça commence à être un peu quand même du radotage. Parce que c'est la 8e réforme, hein, quand même, hein, depuis 1991. Et le fameux livre blanc qu'avait été mis en place par Roca, et on voit quand même qu'on nous raconte toujours la même chose. Alors deux hypothèses, hein, où on est en face à des incompétents. Ce que je ne me risquerais pas à prononcer, mais ou alors peut-être qu'on se fout de notre gueule, ça c'est possible également, c'est peut-être un subtil mélange des deux, je sais pas. Mais en tous les cas, quand on parlait de l'aspect politique de la retraite, ce qui est fondamental de mon point de vue, c'est de bien souligner que la retraite n'est pas seulement une assurance, n'est pas une contribution qu'on récupérerait ou une épargne qu'on aurait mis de côté. La retraite, telle qu'elle est pensée depuis 1945 et dans sa constitution, c'est du salaire différé. C'est comme le chômage. C'est-à-dire que notre salaire, il est continu selon qu'on travaille ou qu'on travaille pas, qu'on est productif ou qu'on n'est pas productif. Et même encore, cette notion, elle peut se remettre en cause, puisque n'est pas productif dans la société, quelle est peut-être la valeur ajoutée, ça c'est sûr, mais en tous les cas, est-ce qu'on peut dire qu'un retraité n'est pas productif? En tous les cas, c'est ça le fondement. C'est-à-dire que le chômage comme la retraite et les cotisations séparaient le travail du revenu, et que donc la retraite, c'est du salaire différé. Et donc c'est du salaire différé qui est géré et constitué de manière collective. Or là, on a ce système par points, la vraie révolution, c'est-à-dire l'individualisation, le fait que nous soyons chacun des entrepreneurs de nous-mêmes, et le bris, la destruction de toute cette collectivisation qu'il pouvait y avoir de la richesse nationale et du salaire et des quotidiens.
On va faire une pause musicale, petite pause musicale, puisqu'après on va avoir Arthur qui nous téléphone de Bretagne. Thank you. Allez, on va maintenant, je crois, du côté de Douarnenez et je pense aussi de Quimper, en fait. Arthur, tu nous entends ?
Je vous entends, salut.
Salut, salut Arthur, bienvenue. Grand plaisir de t'accueillir à l'Aigre-Gorge, je crois que c'est une première, en plus peut-être.
Ouais, ouais, par téléphone.
Comment ça va, d'abord ?
Ça va, mais j'ai chopé la gastro de route.
Et que se passe-t-il en Bretagne, alors ?
Alors, en dehors de la gastro, tout se passe bien. J'étais à Quimper, là, ça a pas mal bougé. Les manifs ont un peu réduit en termes de personnes, mais moi, je fais pas de décompte, donc j'en sais rien. Enfin, c'est vraiment ce qui est dit dans les journaux et tout que je reprends, quoi. Donc là, la manif de jeudi, il parle de 3000 personnes à Quimper.
Il y a combien d'habitants à Quimper ?
Combien d'habitants à Quimper ? Alors, la bonne question. Ah, comme bon. J'y habite pas, je sais pas. je peux pas trop te dire. La manif de début décembre, que moi j'avais pas fait de manif à Quimper depuis quasiment 10 ans, et la manif de début décembre m'a rappelé les manifs du CPE, donc m'a donné.
Ouais, 2006. 2006,
ouais. Voilà, ouais. Donc ça m'a. J'étais assez enjoué de voir autant de monde dans la rue, quoi. Je sais pas si vous voyez visualiser Quimper, il y a l'Audet qui passe au milieu et la manif classique longe l'Audet et revient de l'autre côté en tournant au niveau de la gare, quoi. Et au début décembre, le début de la manif était de l'autre côté alors que la fin était toujours pas partie, quoi.
Qu'il y avait dans cette manif, qu'est-ce que tu as pu apercevoir comme secteur mobilisé, hein ?
Alors, c'est venu de pas mal de tout le Finistère Sud, là. Au niveau des boîtes, j'ai pas vu beaucoup. J'ai vu Bonduel, mm-hmm. une banderole Bonduel que j'ai revue aussi jeudi dernier. Sinon, il y a pas mal de CGT de marine marchande et pêche.
Ouais.
Voilà, des drapeaux que je voyais pas trop à Boulogne-sur-Mer, par exemple, quand j'y habitais. Donc c'était assez, j'ai pas eu trop l'occasion de causer avec. Sinon c'est beaucoup Educnat, l'hosto, et puis il y a aussi les EHPAD, le planning familial aussi qui était là, le planning familial de Douarnenez. Et les EHPAD, là il y a pas mal de luttes d'EHPAD dans les EHPAD dans le coin à Audierne. Ils sont restés en grève pendant pas mal longtemps pour la direction voulait leur diminuer leur RTT. C'était très étonnamment peu de jeunes, entre guillemets, j'ai pas vu beaucoup d'étudiants, et les seuls jeunes que j'ai pu remarquer moi à la manif début décembre, enfin pas les seuls, mais la grande majorité de moins de 30 ans que j'ai pu voir à la manif de début décembre, c'était des gens qui avaient le drapeau de Extinction Rébellion.
D'accord. Et des gilets jaunes ou pas des
gens ? Alors c'est ça le côté intéressant aussi. La manif est bien sûr appelée par l'intersyndicale, mais tout ce qui s'y passe d'intéressant est à la base des gilets jaunes, est créé par les gilets jaunes, quoi. Il y a un bon collectif dans le Finistère Sud de gilets jaunes qui est actif depuis le début du mouvement des gilets jaunes. Et par exemple, hein, jeudi, ils avaient préparé une table. Alors, il pleuvait comme pas possible, comme on peut imaginer souvent de temps en temps dans le Finistère, quoi. Enfin, ça arrive de temps en temps.
Exceptionnellement, oui.
Voilà. Et ils avaient préparé table bâchée avec café, thé, des gâteaux que chacun avait fait.
Rapproche-toi de ton micro, camarade.
Ah ouais, excuse-moi. C'est un vieux portable.
Oui.
Ils avaient préparé café, tout, enfin le petit déj, quoi, ouais. Pour les gens qui arrivaient à la manif. Et ça, c'était, enfin c'est un petit détail, mais c'est assez chouette. Déjà, c'est une bonne
volonté.
C'est
sympa, oui. Complètement sympa.
Ça permet que les gens. Comment ?
C'est complètement sympa.
Ah, c'est super sympa. Et les gens causent, voilà, et ça permet de dans une manif, les gens qui n'ont pas trop l'habitude, ils vont pas aller causer à n'importe qui, des fois un peu isolé, bah là, tu causes autour du café, et c'est assez chouette. Et la manif était partie pour faire la balade classique, quoi, et ce petit groupe de gilets jaunes a décidé, arrivé au niveau de la gare, on investit la gare, quoi. Et là, ils ont essayé déjà de prendre la tête de la manif, ce qui a pas trop plu à la CGT,
Et une fois arrivé dans la gare, les gros bras de la CGT a débarqué. « Non, c'est un scandale, vous vous faites chier, vous respectez personne, vous respectez pas les cheminots qui sont en grève depuis tant de semaines, voilà. Ils vous ont dit de pas rentrer dans la gare, vous rentrez dans la gare, voilà. » Et donc personne n'a suivi, donc ça a lâché. Donc ça a créé quelques tensions ouvertes entre les petites têtes locales des syndicats et les gilets jaunes. Mais les syndiqués de base, si je peux dire, de la CGT étaient pour certains prêts à aller investir la gare, quoi. Voilà. Mais sinon, c'est la balade tranquille habituelle. On fait notre petite balade, on mange nos saucisses et puis on rentre chez nous. Et en fait, les seuls trucs qui sont en dehors de ce type d'action basique, quoi, viennent des gilets jaunes, quoi. À la fin de la manif, les gilets jaunes ont décidé de continuer la manif en sauvage jusqu'au tribunal. Moi, j'ai pas pu y aller, mais les copains qui y étaient m'ont dit bon, bah, c'était pour l'histoire, quoi. Tu vois, c'était histoire de faire une petite manif sauvage à la fin de la manif. Alors c'est un petit peu poussif, mais on sent qu'il y a quand même une volonté de certaines personnes, et là pas que gilets jaunes, de sortir un petit peu du cortège traditionnel, quoi. Et ça, c'est assez intéressant, je pense. Vu que je suis un peu en vrac là, je pense pas que j'irai à la manif demain, mais j'espère voir ce truc un peu évoluer plus massivement dans les jours à venir dans les manifs, quoi.
Et est-ce que tu es un peu au courant de ce qui se passe ailleurs en Bretagne?
Alors,
en dehors de Rennes, évidemment. Mais...
Ouais, bien sûr. Alors dans le Finistère, là, j'ai regardé un petit peu. À Brest, ils ont bloqué le port, pas mal. Là, c'est en fin de semaine dernière. Il y a eu une manif aussi qui a bon, sur internet ils parlent de sur la presse bourgeoise, ils parlent de 4 à 7 000 personnes, donc wow.
C'est pas mal.
Ah, c'est énorme. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal du tout, sachant aussi que juste en début de semaine là, le préfet de peur d'action contre les gares avait mis un arrêté d'interdiction de manif et de regroupement aux abords de la gare de Brest et de Quimper. Mais ça, du 2 au 6. Alors, je ne sais pas si ça a été renouvelé après, parce que la manif, c'était le 9. Mais voilà, donc ça crée une petite ambiance tendue. Et avant de partir sur les autres villes où j'ai pas trop d'infos non plus, mais sur Quimper, avant la manif du 9, là, de jeudi dernier, les Gilets jaunes avaient organisé un blocage des usines de Bolloré. Dans la banlieue de Quimper. Et voilà, ça s'était su un peu avant que ça se fasse. Et Bolloré a fait venir rien de bien méchant, mais a fait venir un huissier pour
faire constater, quoi. Ouais. Mais symboliquement, même si c'est symbolique, même ça va me faire perdre du pognon, ça, c'est sûr. Mais c'est très, très bien joué, quoi. C'est très, très clair.
Ah non, mais c'est super, parce que Bolloré, c'est le grand pote du préfet actuel. Et de toute façon, il est connu localement pour... Dès que tu mets une ligne contre lui dans la presse, tu reçois un procès pour diffamation, quoi.
Est-ce que tu sais s'il y a des méthodes d'organisation? Est-ce que tu avant de comment s'organise le mouvement? Est-ce qu'il y a des assemblées générales? Est-ce qu'il y a des contacts qui sont établis? Est-ce que les gens sont acteurs de leur mouvement, ou est-ce que ça suit un peu comme partout, enfin plutôt comme chez nous, l'agenda syndical?
Alors c'est un petit peu des deux. Il y a toute une frange des gens qui vont en manif qui suivent l'agenda, quoi, et qui suivent l'intersyndical appel, allez, on va pas bosser, on vient en manif et puis on rentre chez nous et jusqu'à la prochaine. Mais comme je le disais tout à l'heure, autour des gilets jaunes, là, se crée quand même un bon petit groupe qui fait des petits trucs en plus, quoi, des petites actions. Alors il y a eu à la fin de la manif de jeudi, ils ont décidé de refaire une manif à la c'est le l'hosto qui a motivé un peu les gilets jaunes, entre autres, à faire un truc, une descente au flambeau sur le mont Frugy, qui est la petite montagne dans le centre de Quimper. Mm-hmm. La petite colline plutôt. et l'hosto est juste derrière le mont Frugy, quoi.
Ouais.
Et ils ont fait une descente au flambeau qui était interdite par la préfecture, mais ils ont quand même décidé de la faire. Et ils ont étendu des grandes banderoles, dont une avec marqué de Malik à Cédric, ni oubli ni pardon. Donc ce genre de petits trucs qui bah c'est pas tellement une habitude de voir ce genre d'action dans Quimper.
Par rapport au slogan que tu as dit tout à l'heure, il faut quand même dire rappeler que c'est Malik Osekin, je suppose.
Oui, c'est ça, hein, oui, c'est ça, bien sûr.
Et puis Cédric, le jeune de Nantes qui s'est fait tuer récemment.
Voilà.
Il n'est pas à Nantes, il est parisien et il s'est fait buter, c'est le livreur de 45 ans. D'accord. Même si à 45 ans, on est quand même jeune. C'est le troisième mort sous Sa Majesté Castaner. Le record est battu et on descend. Alors évidemment, il y en a beaucoup plus, hein, mais c'est vraiment les plus mis en avant, les plus symboliques, en plus dans un cadre qui est une interpellation pour une infraction routière.
Oui, sans manifestation. Classique, quoi, si on peut dire, quoi.
Avec en plus, alors là, pour le coup, un profil, c'est n'importe quoi. Bon, peu importe, voilà. On aura peut-être l'occasion d'en reparler.
J'espère, parce que... Ouais.
Et donc oui, tu dis des embryons comme ça de tentatives d'action, voilà. et d'organisation, ouais.
Voilà, et très peu de lycéens, toujours. Et ça, moi, moi j'ai souvenir des manifs à Quimper il y a quelques années où c'était blindé de lycéens, c'était très jeune, très dynamique. Et là, il n'y a pas beaucoup de jeunes, pas beaucoup de lycéens. C'est vraiment ce qui m'a frappé. Et alors il y avait eu Extinction Rébellion a fait quelques actions au cours de la manif, des petits trucs symboliques, on se pend debout sur des glaçons, ce genre de choses qui ont bonne image, hein, dans au niveau des manifestants s'arrêtent pour regarder, les félicitent et tout, mais voilà, c'est de la com, pourquoi pas, bon. Mais rien de, enfin, ça fait pas ça fait pas non plus un truc qui va. On se dit, il y a un petit embryon, comme tu disais, ça peut partir, mais il manque un truc et je sens que tous les vieux de la syndicaux tous les vieux façon de parler, mais tous les gens qui ont l'habitude des actions syndicales classiques, on défile et voilà, sont un peu regarde un peu les actions des Gilets jaunes, pas trop de travers, quoi. Se disent, en fait, c'est peut-être comme ça qu'il faut faire. Mais un petit peu peur de se lancer là-dedans aussi, quoi. Ça fait que les Gilets jaunes se retrouvent vachement isolés et ça marche pas, quoi.
Et c'est ce que j'allais te dire. Et est-ce que dans les conversations, parce que je sais que tu causes beaucoup, mais est-ce que dans les conversations que tu as eues dans les cortèges, ces aspects-là sont abordés, hein?
Bah, pas tellement. Pas tellement. Les gens semblent un peu discrets, tu vois, sur est-ce que je ferais ça. Après, c'est toujours les mêmes, tu vois, tu causes, ils font chier, la CGT, ils nous sabotent toutes nos actions, si on fait que manifester comme ça, on gagnera jamais. Je suis assez d'accord avec eux, hein, je suis même plus que d'accord avec eux. Mais voilà, les gens qui écoutent à côté, tu sens, on t'écoute, ça réagit vite fait, mais tu penses pas que... Je pense pas que ça pourrait nuire au mouvement, donc ça peut discuter comme ça. Et les gens sont pas réfractaires non plus aux actions un peu plus radicales, mais en fait on donne l'impression d'avoir peur de sauter le pas, quoi.
Et au niveau de la répression, ça va
Ouais, la répression, non, c'est vraiment, c'est tranquille, quoi. Il y a pas de répression, je crois qu'il. Il y a vraiment, je te dis, juste l'huissier là sur l'action de
contre Bolloré.
Contre Bolloré, voilà. Après, moi, j'ai pas eu vent d'autres trucs. Il y en a peut-être eu, mais j'ai pas eu vent d'autres choses au niveau répression. Non, bon, après, là, sur Quimper, c'est quand même assez calmos, quoi. Mais c'est vrai que si le petit groupe un peu plus péchu là arrive à motiver du monde, on risque de voir. Enfin, la différence entre la manif de début décembre et cette manif de la semaine dernière, c'est que là, cette semaine, j'ai quand même vu des flics avec casquets et puis boucliers, tandis qu'au début décembre, on n'a pas vu un seul flic, quoi.
Ah oui, ça, c'est remarquable, oui, effectivement. Oui, oui, juste parler de la répression, parce que il y a quelques jours, le procès de l'incendie du péage ouais. de Narbonne de Bessan est tombé. Et c'est dans un silence assez assez assourdissant, quoi. Il y a plus de 21 années de prison qui ont été distribuées, et il y a 3 personnes qui sont condamnées à 5 ans de prison, dont 4 fermes. C'est vraiment certainement la peine la plus lourde au cours de cette année. D'une part, et le procès le plus, on va dire, politique et clairement de classe qui a été fait. Alors, nous, ici, on reviendra au cours de notre prochaine émission sur la condamnation, là, et notre camarade Hervé qui a été condamné lundi. Tous les Rémois et les Rémoises qui nous entendent sont évidemment invités à venir le matin à 8h30 à la Maison des Syndicats pour participer à l'organisation du mouvement et discuter et rencontrer. Et puis surtout la chose la plus importante, on le dit toujours, c'est la solidarité. Donc on va vraiment être attentif par rapport à Hervé et voir comment on va pouvoir organiser concrètement et matériellement cette solidarité. Merci Arthur.
Merci Arthur.
À bientôt.
Ouais, à bientôt.
Salut.
Bonne soirée.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur les Côtes d'Igarigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, à Local à Saint-Giron et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où vous pouvez retrouver nos émissions.